Donc, nous allons aborder lors de cette table ronde et on va également le viser sur sa nécessité ou pas à la quête des personnages ou des héros dans la littérature fantastique ou de genre en général. Donc, je vais laisser chacun des intervenants se présenter de lui-même. Je pense qu'ils sont beaucoup plus doués que moi pour faire ça.
Non, donc, ça se passe pas comme ça habituellement.
Bon. Alors, je suis Licane, écrivain, nouvelliste et romancier. Donc, c'est-à-dire que j'écris à la fois des textes courts et des textes longs. J'ai écrit deux romans aujourd'hui. Les Machetous, un roman vampirique, et La Chimère aux ailes de feu, un thriller fantastique. Et je suis en train d'écrire en ce moment la suite de Les Machetous.
Bonjour, moi je m'appelle Nathalie Legendre, j'écris principalement pour la jeunesse et principalement en science-fiction.
Tu veux qu'on prenne celui-là? Jean-Luc Bizien, j'ai la chance de ne pas être enfermé dans une petite case parce que c'est l'habitude dans l'édition française. Je fais donc aussi bien des albums jeunesse que des romans pour les adultes. Je passe d'un genre à l'autre avec un vrai bonheur. Je suis un dessinateur frustré et donc je fais des albums avec des gens qui sont bien plus doués que moi pour le dessin. Et j'ai la chance de faire beaucoup de choses différentes et je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là. Mais sinon, on va essayer de trouver ensemble.
Voilà le vrai sujet de la table ronde. Anne Fakouri, auteur jeunesse et adulte en thriller fantastique et en fantastique tout court, en fantasy urbaine.
Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc au cœur du mal. Je voudrais vous poser à chacun une question qui est relative notamment à vos bibliographies respectives, à savoir le mal tel que vous l'abordez dans votre œuvre, est-ce que c'est plutôt quelque chose de personnifié, donc qui est quelqu'un ou quelque chose de tangible, ou plutôt quelque chose d'intangible, un concept
pas beaucoup de temps d'y réfléchir, mais j'y vois comme quelque chose d'intangible et plus en rapport avec ce qu'on peut vivre tous les jours. C'est une forme de, le mal, c'est une forme de métaphore de tous les petits mots qu'on a tous les jours, et tout d'un coup dans un roman ça prend une forme de personnage ou ça prend une forme d'une intrigue qui est vraiment entre guillemets maléfique, mais c'est pas vraiment c'est très intangible, c'est des toutes petites choses. Je n'ai jamais été confrontée au mal absolu. Enfin, je ne suis pas confrontée à des choses que j'écris, quoi. Mais ça se cristallise, ça prend des formes plus monstrueuses.
Mais d'abord, c'est quoi le mal? Je ne sais pas, moi, c'est quoi le mal? C'est quoi le bien? Le mal, pour moi, c'est l'inhumain. Et le bien, c'est l'humain. Donc, est-ce que j'ai été confrontée au mal? Oui, j'ai été confrontée au mal. Évidemment, ça se ressent dans mes écrits. Mais c'est plus une façon de dénoncer le mal, de dénoncer l'inhumanité. C'est pas l'inhumanité dans sa globalité. L'inhumanité, pour moi, c'est l'humain. Il y a des bons, il y a des mauvais. Là, je suis très... je suis très caricaturale, parce que ça se passe pas comme ça, malheureusement. Un être humain, c'est difficile à cerner. Donc, voilà.
Oui et non. Alors dans le Clair Voyage, qui est mon roman en jeunesse, il n'y a pas de bien ou de mal, puisque les personnages sont des fées pour la plupart, des fées non chrétiennes, donc des fées qui ne répondent pas à l'idée de bien ou de mal, tout simplement à leur caprice, à leur propre logique, qui n'est pas toujours une logique humaine. Donc là, évidemment, on n'a pas d'idée de mal en soi. Il y a évidemment des opposants à l'héroïne principale, mais qui ne font pas partie vraiment du mal. En revanche, dans l'Arcogénèse, c'est très très précis, puisque le mal est personnifié, c'est le marchand de sable, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime beaucoup utiliser les contes, et je me suis toujours demandé ce que c'était que ce type bizarre qui venait nous jeter du sable dans les yeux pour qu'on dorme. Absolument terrifiant pour un enfant de s'endormir en se disant qu'un type, un polichinelle, va venir nous jeter du sable de façon assez sadique. Et puis parce que j'ai d'autres références, et puis j'ai aussi des références cinématographiques plus ou moins avouables. J'ai été très impressionnée petite par Freddy Krueger, qui a été vraiment le Grip de la nuit, ce film d'horreur épouvantable ce monstre qui tue les enfants dans leur rêve. Et donc le mal pour moi est vraiment ce marchand de sable qui vient tuer les enfants dans leur rêve. Enfin, pas exactement, il s'attaque aux gens qui sont dans le coma en fait, plus exactement, et il vient détruire leur esprit. Pour plusieurs raisons qui sont très personnelles, je fais ce qu'on appelle le rêve lucide. Je ne sais pas si vous connaissez le rêve lucide, c'est cette façon de contrôler les rêves. Et l'étape avant le rêve lucide, c'est le moment où on s'aperçoit qu'on rêve et on ne sait pas le contrôler. C'est terrifiant, tout d'un coup, de s'apercevoir qu'on est dans un rêve, qu'on peut faire apparaître n'importe quoi et que ce n'est plus le cerveau qui contrôle. Donc ça, c'était vraiment pour moi une façon de gérer cette peur-là, parce qu'on en vient à ça toujours quand on écrit, gérer la peur aussi. Et puis donc ce marchand de sable. Et puis l'autre source de mal, et là je rejoins Nathalie Legendre là-dessus, l'autre source de mal dans l'arc-jeunesse, c'est la société elle-même. C'est l'ordre social qui s'exprime par l'ordre familial, c'est le poids de la famille, c'est le tabou. Et là on est dans un mal plus connu, on n'est pas dans l'imaginaire effectivement. Dans l'arc-jeunesse, il y a une famille de femmes qui essaie de claquemurer les autres femmes dans une tradition en fait, de réussite. Et là, le mal devient vraiment cette famille bourgeoise, cette famille tentaculaire qui étouffe.
Non, moi j'ai fait des romans de fantasy et, voilà, qui correspondent au thème du salon. Et ils avaient cette particularité, c'est que même quand j'ai publié en jeunesse pour Bayard, où il fallait que le bien et le mal soient très très identifiables, j'étais hors norme parce que je faisais pas des personnages blancs ou noirs, mais ils étaient tous plus ou moins au niveau de gris. Parce que j'essayais, en tout cas pour les jeunes lecteurs, de leur montrer ce qu'était un être humain. Je ne m'étais pas vraiment posé la question. Il y avait le danger, il y avait la quête, mais il n'y avait pas vraiment le mal. Le mal, je m'en suis aperçu récemment, je l'ai abordé dans des romans, dans des thrillers contemporains et dans des thrillers historiques, au 19e. Je crois que le mal, en tout cas c'est ma définition, c'est ce qui est ancré au fond de chacun d'entre nous et qu'on a appris plus ou moins à gérer et à contrôler. Je crois que n'importe qui un jour a rêvé, et heureusement on n'est pas passé à l'acte, de tuer quelqu'un d'autre sous un coup de colère, de vouloir se venger ou chose comme ça. On est tous plus ou moins passés par cette case-là, certains plus que d'autres. Certains passent à l'acte, d'autres pas, et la grande interrogation que j'ai en ce moment, c'est ça. J'ai abordé ça dans deux bouquins, donc un thriller contemporain qui se passe en Corée du Nord, parce que pour moi, actuellement, c'est le mal absolu, il est là. Il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent tous les ans, et on ne peut rien faire, et on continue à voir, à regarder, et à ne pas pouvoir bouger. Et puis via les aventures d'un psychiatre au 19e siècle qui s'interroge sur des déferlements de violence comme ça qu'il observe chez des patients sans comprendre véritablement la source. Donc le jour où on aura vraiment identifié cette source-là, la part la plus animale de l'homme, on aura déjà fait un gros pas dans le contrôle et l'identification du mal. En tout cas, c'est ma définition.
D'accord. Selon vous, le mal a-t-il des attributs particuliers? Est-ce qu'il participe justement à la quête du héros? Est-ce que le mal est partie intégrante de vos récits? Est-ce que il est entremêlé finalement avec les scénarios, les objectifs des héros? Finalement, est-ce qu'il intègre le scénario non pas comme un personnage secondaire, mais vraiment comme quelque chose qui permet l'aboutissement des personnages, de l'histoire?
En fait, moi j'essaye dans ce que j'écris, donc principalement des romans vampiriques et des thrillers, j'essaye d'incarner ce mal. C'est-à-dire, bien souvent, j'ai des personnages à la première personne qui sont des anti-héros, c'est-à-dire des gens qui sont, entre guillemets, pas très fréquentables. J'aime bien l'exercice, pour moi, c'est carrément une aventure humaine, et d'aller essayer de trouver la faille, d'incarner des gens qui ne sont pas bons, qui ne sont pas civilisés, qui peuvent avoir une part de violence, une part un peu perverse. Et c'est vraiment, surtout dans la chimère aux ailes de feu, c'est vraiment une question que je me suis posée au fond, quoi. Donc en fait, c'est pas le héros qui se bat contre le mal, bien souvent c'est le héros qui se bat, mais contre un mal, contre lui-même, pour éviter de faire trop de mal. Voilà. Donc c'est le mal, mais vu de l'intérieur. Je préfère cet aspect-là qu'un héros positif, un héros très bon, très parfait, qui se battrait contre un mal pour qu'il soit mis en valeur, en fait. Ça m'intéresse pas du tout.
Bah, moi, c'est un peu comme Nikam, du coup, ça va écourter un peu ma réponse, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Luc. L'humain est tellement complexe que parfois, quand on crée des personnages, on peut pas les créer tout bons ou tout mauvais. Il y a des couleurs de gris. Et j'ai en prévision cette année d'écrire un roman, je ne dis pas trop parce que je suis assez superstitieuse, mais où là j'ai envie d'incarner un personnage. On ne peut pas, absolument pas se douter jusqu'à la fin, ben j'espère que je vais y arriver, on ne pourra absolument pas se douter que cet être-là, ce personnage-là, entre guillemets, c'est le mal. Et j'aimerais montrer toute cette complexité-là que l'on peut avoir, nous, en tant qu'humains. Comme tu dis, Jean-Luc, on a peut-être... moi, je suis peut-être un petit peu plus... je me dis du plus. Je ne dis pas qu'on a tous rêvé de tuer quelqu'un, parce que ça, moi-même, sous la plus grosse haine possible, c'est pas possible. Moi, c'est un truc que je ne pourrais jamais faire. Même imaginer. C'est pas une question de faire, c'est imaginer. Mais c'est la complexité justement de l'humain et de mettre en scène des personnages qui portent en eux ce qu'on peut appeler le mal, et comme vous, lecteur, vous pourriez ressentir comme du mal, mais essayer de détourner et que le lecteur à la fin se dise « Merde, ce personnage-là, je m'y suis attaché, un serial killer. » On ne pense pas sur notre visage, on ne peut pas savoir qui est le serial killer. Sauf qu'il y en a un dans la salle. On ne sait pas, on le côtoie, il est gentil. Non, mais c'est vrai, vous regardez la plupart des documents qui ont été faits sur les serial killers, ce sont des gens tout à fait normaux, bah oui, des êtres humains, mais qui ont certainement peut-être un problème psychologique où il y a quelque chose. Et on ne peut pas savoir.
Le mal a-t-il des attributs particuliers en partie qui a jeté le héros?
Je m'en suis pas servi en fait dans un aspect de quête. Pour moi, la quête, c'est un début, un commencement et une fin, mais pas forcément le happy end avec la morale à la fin qu'on nous a inculqué quand on était enfant ou dans les contes de fées. Si tu veux, ce type de quête-là a déjà été fait, très très bien fait, donc je ne m'y confronte pas trop. En revanche, ce que j'aime bien, c'est des personnages qui ne sont pas frappés du syndrome Tintin. Tu sais, 50 aventures sans prendre une ride. Et sans finalement évoluer. Tintin est formidable, il est bien formidable au début, il sera formidable à la fin. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre en scène, et ça, même quand j'écris pour les ados, c'est de mettre en scène des gens qui sont confrontés à la vie, donc forcément cabossés, mais qui vont passer au-delà, qui vont franchir des étapes, qui vont être confrontés à des épreuves, et puis qui ont le droit aussi à l'échec, qui ont le droit de se planter, mais qui, de toute façon, en sortiront. Pas forcément grandi, mais mûri, et voilà, qui vont avancer. Je crois qu'aujourd'hui, alors après, les filles, là, vous me dites ce que vous en pensez, puisque la plupart d'entre vous écrivent aussi pour la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de modèles, de donner ces modèles-là. Tu vois, par exemple, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. De nos jours, ils se marièrent car ils avaient déjà beaucoup d'enfants, chacun de leur côté. C'est ça qu'il faudrait leur apprendre. J'ai été instite pendant 15 ans. Et un jour, j'ai pris conscience que j'avais grandi dans un monde où moi, on m'avait dit mieux je travaillais à l'école et plus j'avais de chance d'avoir un boulot. Et que j'apprenais depuis 15 ans à des gosses la nécessité de lire et écrire quand de leur vie, ils n'avaient jamais vu ni papa ni maman aller au boulot. Donc, il faut, si tant est qu'on a une petite mission en donnant des livres, c'est pas donner des modèles, mais c'est donner, je crois, des outils et amener à la réflexion. Après, quand on écrit en adulte, quand je fais un thriller pour les adultes, je joue avec nos peurs à tous, je joue avec ce qui, moi, me fait peur, en espérant que ce moteur-là va faire tourner les pages, va amener le lecteur, va l'accrocher, et le faire s'interroger. Maintenant, si mal il y a, c'est pitié pour le petit personnel, c'est pas didactique, c'est pas, je n'écris pas des essais philosophiques. J'essaie juste de raconter une bonne histoire qui va tenir mon lecteur en haleine, si en plus, à la fin, lors d'un salon, d'une rencontre fortuite, un lecteur, une lectrice vient me dire « ça m'a fait penser à, c'est ma cerise sur le gâteau, à moi ». Mais le but du jeu n'est pas de faire une démonstration. Le but du jeu est de donner des pistes, et si mal il y a, c'est pas vraiment un personnage. Il est omniprésent, c'est un des éléments de l'histoire, mais c'est pas ce vers quoi je vais tendre. C'est mon sujet à moi. Si ça devient le sujet du lecteur parce qu'il se l'est approprié, j'ai gagné. S'il a juste passé un bon moment, j'ai fait mon job.
Tout a été dit, ce qui est super pratique.
Je vais m'installer au bout de la table.
C'est confortable. Le mal caricatural n'a pas un grand intérêt dans un roman, évidemment, même pour la jeunesse. Dieu merci, effectivement, plus aussi manichéen. Moi, j'aime bien les personnages cassés aussi, les doux rêveurs. Il y a rarement de la violence dans mes personnages parce que ce sont plutôt des gens ballottés par leurs doutes, par la société, qui cherchent une place vaguement. Qui finissent par la trouver justement parce qu'il y a le mal et que la différence entre mes personnages les personnages vers qui le lecteur va se tourner plus facilement et le mal, c'est que le mal est offensif. Voilà, la différence c'est ça, c'est que le mal agit et agit contre les personnages, c'est vraiment un opposant, c'est la seule différence parce qu'on s'aperçoit, non, je vais pas vous raconter, mais on s'aperçoit très vite que même mon marchand de sable est une incarnation du mal pour des raisons dont il n'est absolument pas responsable et pour des raisons dramatiques liées à la bêtise humaine.
Ouais. Concernant le mal, dans beaucoup de romans, de récits ou de séries, on a cette notion en fait comme quoi nommer le mal est une problématique en soi. Je peux citer Harry Potter avec Voldemort, donc il ne faut pas prononcer le nom. On a aussi la même chose chez Lovecraft avec certains des grands anciens, avec tout le monde qu'il ne faut pas nommer. Pourquoi pensez-vous justement qu'il y a cette problématique de nommage du mal finalement? Est-ce que nommer le mal, est-ce qu'il y a un sens à taire le mal ou à ne pas volontairement lui donner un nom en fait?
Putain.
Oh putain, qu'on est souvent, hein. On n'a jamais vu faire cette table ronde.
Déjà, elle est rectangulaire, si tu veux, on se barre.
Ouais, déjà, c'est pas bon. Le nommer, j'ai pas bien capté ta question.
C'est une question de rite. À l'origine, on invoque le mal par le rite, donc obligatoirement, il y a quelque chose à l'identité du mal au nom. Si on le nomme, on est dans le rituel, et donc on l'invoque, donc il apparaît. Ça peut être un
début. Il peut y avoir aussi un réflexe très enfant. Non, on laisse tomber. Ça vous va là, comme ça, sans micro, on pourrait tout faire. Il peut y avoir un truc aussi très enfantin. Quand on cesse les petits, vous devez tous le savoir, les tout petits, dès qu'on disparaît du champ de vision, on est mort, on n'existe plus. D'où le besoin de jouer à coucou, je suis là, des tout petits, de vérifier que tiens, finalement, ça revient. Il y a ce côté-là aussi, on met un truc au fond de sa poche avec le mouchoir par-dessus et puis on espère que ça ne va plus exister parce qu'on tient distance. Très longtemps dans nos sociétés, avant qu'elles soient dites, évoluées, on mettait ça à distance et puis on espérait que ça n'existait pas. En gros, on mettait un emplâtre sur une jambe de bois et puis on croyait pour que ça fonctionne. Donc je crois qu'il y a aussi cette fonction-là, c'est-à-dire on ne va pas le nommer, tout pendant qu'on ne le nomme pas, on l'attire pas le mauvais œil. Ça n'existe plus parce qu'on n'en parle plus. Et voilà, longtemps ça a été ça, et puis petit à petit, parce que les codes évoluent, parce qu'en littérature on essaie de bousculer, parce qu'on n'a pas envie de refaire toujours le même truc et de resservir toujours la même soupe, et ben on joue avec ça. Et de fait, Lovecraft, c'est fabuleux cette histoire de Cthulhu qu'il ne faut pas nommer, de grands anciens et compagnie. Ok, ça, c'est magnifique, ça a été écrit en 1933. On a le droit de bousculer un petit peu maintenant, avec tout le respect qu'on lui doit, tu vois. On va la jouer, ok, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais allez, maintenant on le dit quand même. Touloup, 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 tu vois. Même pas peur. Non, mais il y a ça aussi, et on. Bien sûr, c'est un moteur. Ouais,
et on joue sur les noms. Moi, mon marchand de sable a plein de noms en soi, parce que chacun lui donne son propre nom. C'est une façon de s'approprier aussi sa vision du mal et sa vision de la peur aussi, sa propre peur.
Et pour la gestion de la peur, toi en tant qu'auteur et en espérant le transmettre, parce que c'est le jeu avec le lecteur, hein, on se fait frémir, au contraire, si tu l'amènes à le nommer, si tu le cristallises et si tu le mets en scène, il est directement là et c'est là que tu vas tourner les pages.
Oui.
Hein, si. Justement, tandis que si tu dis, je ne vais pas le nommer, vous inquiétez pas, mais je vous le sors à la fin parce que c'est le boss de fin de niveau. À moins d'avoir 12 ans, ça ne fonctionne pas top.
Il y a une certaine fascination aussi. Enfin, de toute façon, dès qu'on est confronté au mal, il y a une attirance-répulsion. Et le fait d'incarner le mal, je pense que pour le lecteur, c'est quelque chose d'assez excitant. Même si c'est une excitation
dont on n'est pas toujours, enfin, on n'est pas toujours à l'aise avec, on ne sent pas toujours vraiment en phase avec ça. Il y a cette répulsion, mais il y a cette attirance aussi. Et le fait d'incarner des personnages qui sont, on va dire, du côté un peu obscur de la force, hein, pour utiliser des métaphores. Pour, en tant qu'auteur, moi, ça me motive. Et je pense qu'au niveau des lecteurs, j'ai souvent des retours sur certains personnages, notamment Catapote, qui est vraiment un personnage mauvais dans le sens... Bon, il a eu un passé, il lui arrive beaucoup de choses, mais il peut être considéré comme mauvais. Des retours vraiment... Les gens ont été saisis, quoi. Sidérés, presque.
Bon. Bah, ils ont tous répondu.
Pas mieux. Non, puis il y a un côté serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est rigolo, mais dans nos sociétés, ce qui fait peur, c'est l'étranger. L'étranger au sens inconnu, différent.
C'est la différence qui fait peur.
C'est différent, donc on s'inquiète un peu. Alors, c'est rigolo parce qu'on ne veut plus avoir peur, mais on n'essaie surtout pas de savoir de quoi il s'agit. Il y a un truc, tu vois, qui m'interroge. Oui, c'est au contraire. Il faut mieux le nommer une bonne fois pour toutes, l'identifier, savoir à peu près où il est. Tu vois, c'est...
Une fois qu'on l'a nommé, on l'a mis à distance.
On ouais, puis, à le contrôler. Puis on l'a repéré, donc c'est, ouais. C'est plus facile à voir venir. Parce que si on continue à se voiler la face et à attendre en espérant que tout va mieux aller, à un moment donné, le type va arriver et demander si on veut un café et l'addition. Tu vois.
Avec un grand couteau.
Vos personnages maléfiques, ou du moins qui ont une part de mal en eux, le sont-ils par nature ou par historique personnelle en fait ? Faut-il une excuse pour être méchant ?
Moi, comme j'écris du thriller fantastique, mais très basé sur quand même la psychanalyse, malheureusement, ce mal-là, il va toujours avoir une histoire. Quoi. Je crois pas. Il y a des maladies génétiques, enfin il y a un aspect génétique, on va appeler un chat dans la psychopathie, mais la génétique ne suffit pas pour faire qu'une personne va basculer vraiment dans la maladie. Il faut aussi qu'elle soit confrontée à des difficultés. Donc le mal naître mauvais, effectivement il y a un petit peu de génétique, mais on va dire plus de 50%, c'est quand même une histoire. Voilà. Moi, c'est cet aspect-là que j'aime. À la fois ce lien. Il peut y avoir une hérédité, il peut y avoir une histoire de la famille, mais il y a aussi la personne, ce qu'elle fait, de ce qu'elle a.
Moi, mes personnages qui peuvent à la rigueur incarner le mal ou qui sont mauvais, c'est parce que c'est des mauvaises expériences, ou soit c'est une certaine évolution qui n'est pas forcément dans le chemin le plus approprié, et ils s'enfoncent dedans. Mais moi, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que parfois on n'a pas le choix. Il y a des personnes qui estiment ne pas avoir le choix d'évoluer de cette façon-là plutôt que d'une autre. Pendant que je suis en train de répondre, je réfléchis à savoir quels sont mes personnages qui incarnent le plus le mal. Si dans les orphelins de Naja, les pédophiles religieux, ça c'est une bonne question. Donc nos pédophiles actuels religieux, ou passés ou futurs, parce que malheureusement ça continuera, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Mais ça j'en sais rien, moi je suis pas psychanalyste, hein, même si j'étudie beaucoup la psychologie de mes personnages, j'essaie vraiment d'y aller à fond, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de développer la complexité de l'humain. Mais c'est pas évident de répondre à une question pareille. Je suis chante d'abord.
Je suis contente, je suis pas la seule.
Non, c'est pas ça. Tu sais, le mal, on l'a identifié avant dans les bouquins, dans les contes. Le mal était laid, on le repérait. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui. Les plus grands dingues et les plus dangereux, ils sont pas habillés bizarrement, ils sont en costume cravate.
Ce que je disais tout à
l'heure. Ils sont capables de plier n'importe quoi et n'importe qui. Qu'on fait American Psycho, le type, il est formidable, il est dans la société, il a beaucoup d'amis, il est charmant. Il a juste besoin de découper ses semblables. Après, je me pose une question sur ce que Lucas m'a dit. Est-ce qu'il y a un parcours ? Écoute, je sais pas, tu vois, pour avoir bossé pendant 2 ans pour arriver à pondre un bouquin sur la Corée du Nord, je me rends compte qu'il y a un grand-père qui se forge une image de Dieu vivant en Corée du Nord, qui met son fils au pouvoir, qui est encore plus taré que le père. Alors lui, effectivement, il a été élevé comme ça et il va continuer à pressuriser un peuple, à déclarer la guerre au monde entier, à jouer avec ses petits pétards atomiques. Et puis quand il meurt enfin, on colle son fils au pouvoir normal, tu vois, hop, suivant. Alors c'est le clone, il est à peine plus grand, mais il a coiffé à la Elvis, tout pareil. Et tous nos gentils commentateurs occidentaux disent « Non mais attendez, c'est formidable, il a fait ses études en Suisse. Il est pire que l'autre. » Il est pire que l'autre. C'est-à-dire que lui, justement, il a eu un parcours qui devrait lui permettre de s'ouvrir au monde. Oui, il vient juste de redéclarer la guerre aux États-Unis et continuer à jouer. Donc il y a aussi une notion de pouvoir aussi. C'est-à-dire que le mal, depuis des générations, on le combat. C'est-à-dire qu'au départ, si tu veux, l'homme, depuis le début, si j'ai bien tout compris, a mis la plus grande partie de son intelligence à inventer des gadgets pour lui permettre de foutre sur la gueule de son voisin. Au début, un caillou. C'est un caillou, c'est rigolo, ça peut se jeter. Mais si on travaille le silex, ça devient coupant, ça devient intéressant. Mais des fois, puis on en est au pétard atomique, tu vois.
C'est pour attaquer, ça dépend.
Il y a ce côté-là qui me... Alors effectivement, tu peux expliquer beaucoup de choses. Les serial killers, on sait qu'effectivement, ils ne sont pas nés complètement comme ça. Il y avait peut-être un terrain favorable.
Il y en a certains qui ne tuent jamais personne et qui sont très bien intégrés, qui n'ont aucun souci. Ouais. Et pourtant, ils ont des gènes déficients.
Et tu peux être le fils d'un tueur et tout, et t'en sortir l'être. Pas mal. Mais voilà. Et en même temps, je... Dans la question, parce que j'ai fini par m'y perdre, parce que j'ai l'air intéressant comme ça, mais pas du tout, je suis complètement paumé. Je ne crois pas qu'il y a, d'abord, tu l'as très bien dit, il n'y a pas un profil type, et en même temps, il n'y a pas une image type. Le truc, c'est, ça a toujours été là, je crois qu'hélas, ça sera toujours là, et que donc, il faut peut-être commencer à se poser les bonnes questions pour arriver à le mettre. Et en même temps, c'est très très délicat, tu ne peux pas non plus catégoriser des gens, c'est-à-dire à partir du moment, de quel moment ça devient le mal, quoi. Où est le curseur ?
C'est
impossible à faire. En fonction de la société, en fonction de tas de choses. Ce qui toi, te paraît insupportable, te paraît complètement normal dans une autre société. Enfin, voilà, il faut donc arriver à... Bah oui, pas le catégoriser, mais je crois à l'identifier, à essayer de l'analyser un tout petit peu. Mais on en est encore plus balbutiement. Ça a l'air bien, ce que je viens de dire.
Ouais, c'est très bien, c'est pas mal.
Rappelle-moi la question initiale. Pourquoi on est parti dans la Corée...
Vos personnages maléfiques sont-ils par nature ou par historique personnel ? Faut-il une excuse pour être méchant ?
Ah oui, alors moi, clairement, les miens ont des excuses. Ils sont nés méchants parce que... parce qu'on les a conçus comme ça, en fait. Donc oui, c'est catégorique, évidemment. Voilà, mais après, Narcogénèse, c'est un roman, donc ça c'est mon thriller adulte qui parle aussi d'un sujet qui m'intéressait évidemment, c'était le déni de grossesse et tout ce qui était lié à la maternité, tout ce qu'on transmettait en fait dans la famille, mais ce qu'on transmettait aussi en terreau à un enfant. Donc il y avait cette idée de toute façon de conception, de volonté de transmettre des choses. Des choses qui sont transmises aussi inconsciemment. Donc oui, mon marchand de sable incarne le mal parce qu'il a été fait comme ça et que c'était sa seule façon d'exister. S'il n'incarnait pas le mal, il n'était rien, même pas personne, rien. Je ne peux pas en dire plus, parce que sinon je vous raconter 50 dernières pages. Donc c'est un peu dommage pour un thriller. Et voilà, après dans mes autres romans, non, dans un des romans qui vont sortir cette année en jeunesse, un roman chez Rajo, le mal est incarné par la société elle-même et par le regard qu'on porte sur un phénomène de société très récent et qui est là pourtant, en tout cas qui est là à Paris, qui est qu'on retrouve des enfants dans le métro, ce qui n'est pas arrivé depuis un siècle. Je suis passionnée de Victor Hugo, je pense qu'il aurait érupté longtemps sur les rochers à Guernesey pour ça. Et où je me suis aperçue, je me suis aperçue assez vite que ces enfants qui étaient dans le métro, en fait, le problème c'était pas les gens qui les mettaient dans le métro, le problème c'était les gens qui passaient. Et un jour, j'étais dans le métro en train moi-même d'éructer, quelque chose que je fais assez bien. J'étais avec ma mère, qui est une grande pédagogue, et quelqu'un qui a un regard sur la société assez intéressant. Et en fait, elle m'arrête dans ma colère et elle me dit « Mais est-ce que tu imagines juste ces enfants qui ne voient que des pieds toute leur vie ? Et est-ce que tu imagines ce que vont devenir ces enfants ?» Et là, je me suis dit, c'est hallucinant, effectivement, on n'est que des pieds. Et tous ces gens qui passent pour aller au boulot parce qu'ils ne veulent pas voir, tout simplement parce que c'est insoutenable de voir ces enfants dans le métro. L'incarnation du mal, pour moi, c'est ce silence, ce refus de voir les choses en face, et ce refus de se pencher sur ces enfants. Donc moi, après, j'ai acheté ma conscience comme j'ai pu, parce qu'on ne peut rien faire, évidemment, je me suis renseignée. La police ne peut rien faire de ces enfants, la DAS ne peut rien faire, parce que ces enfants n'ont pas d'identité. En France, ma solution à moi, et c'est ce que j'ai mis dans ce roman, ça a été d'avoir toujours sur moi un jouet, un gâteau, quelque chose, et juste de me pencher, de me baisser pour que, une fois dans la journée, ces enfants voient un visage, tout simplement. Quelqu'un qui leur a souri, quelqu'un qui les a regardés, qui leur a redonné une position d'être humain, une position d'enfant. Donc, pour moi, l'irresponsabilité d'un mal incarné, vraiment, et qui au bout d'un moment devient un choix. Voilà, le mal, c'est ça.
Si je peux me permettre, l'irresponsabilité et l'irrespect de l'humain. Parce que là, tu parles d'enfants, mais il y a également les SDF qui sont dans la rue et qui, il y en a de plus en plus. Oui, il y en a
de plus en plus
jeunes. Oui, les gens ont marre de donner, mais les gens, c'est pas une question de donner. Les gens ne donnent même pas un regard, un bonjour, monsieur, madame, mademoiselle. Il n'y a rien. Il n'y a plus de contact humain.
Je dirais du tout que c'est plus grave parce que sur les enfants, je pense que c'est plus visible. Ce qui est plus choquant, c'est que c'est plus visible parce que ça fait un siècle qu'on n'a pas eu d'enfants.
Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, où ça me choque le plus, c'est que donc il y a ces cas-là, il y a les cas des SDF, il y en a plein. Et moi, ce qui me choque le plus, ce sont les personnes qui vont se pencher sur un chien malade dans la rue, qui a un SDF à côté, qui ne vont même pas le regarder. Il n'y a rien. Donc c'est l'irrespect et l'irresponsabilité.
Il y a une évolution aussi de la société. Quand j'ai bossé sur la série 19e siècle, puisqu'il y avait un aliéniste et qu'il fallait parler un peu de médecine, j'ai découvert des trucs. Moi, ça faisait une dizaine d'années que j'habitais à Paris, je croyais connaître Paris, je croyais vaguement connaître la société française, et je me suis rendu compte à quel point on avait régressé. Au 19e, la Salpêtrière s'appelle pas la Salpêtrière, ça s'appelle l'hospice vieillesse femme. Et il y a un hospice vieillesse homme. Et au 19e, alors je pensais que c'était des sauvages, ils avaient pris conscience qu'il y avait des femmes dans la rue, qui étaient obligées de se prostituer, qui étaient les SDF de l'époque. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on les prenait, on les embarquait manu militari, on les collait à la Salpêtrière, on les soignait, on leur redonnait apparence humaine et on essayait de les réintégrer dans la société. Et aujourd'hui, au troisième millénaire, on sait un truc effarant. Je vais rebondir sur ce que tu dis, mais moi, ça me fait mal au ventre. C'est que 66%, 2 sur 3, des SDF ont un problème psychiatrique qui les a jetés à la rue. Donc, ce n'est pas des types qui sont là réellement par choix. En tout cas, ils en sont auto-persuadés qu'ils ont fait le choix. Mais c'est juste que tu as un tiers de malheureux que la vie a cabossé au point de les jeter à la rue et deux tiers qui sont incapables de juger de ce truc-là. Et aujourd'hui, avec tous ces moyens-là, on a effectivement... Alors, pour le coup, tu vois, pas nommer l'horreur, pas nommer le mal et mettre ça à distance. À Paris, quand tu prends le métro, il y a effectivement tous ces gens. Il y a un grand jeu à Paris qu'on fait souvent avec les copains, c'est arriver le matin quand c'est blindé et dire juste « Bonjour !» Et là, il y a 200 mecs qui regardent leur pompe, comme si tu venais de leur cracher à la figure.
Ils sont inquiets. On sourit dans le métro, on provoque des vagues d'inquiétude.
C'est quoi ? C'est donc cette mise à distance-là et le fait que effectivement les gosses voient que des genoux ou des pieds, parce que les gens se dépêchent de passer, parce qu'il y a une espèce de conjurant le mauvais sort. Tu vois, oula, il ne faudrait pas que ça m'arrive non plus.
Mise à distance, on voulait pas stigmatiser les malades psychiatriques, c'est pour ça que beaucoup restent simplement hospitalisés deux jours et on veut pas leur mettre une maladie, un nom. Mais en même temps, on les laisse livrer eux-mêmes et on les laisse dans la pauvreté. Je me demande si des fois, ils vont peut-être pas. Quand tu parlais de respect, ça peut être aussi du respect que de dire cette personne a une maladie, il faut la prendre en charge. On ne veut pas stigmatiser la maladie mentale, mais du coup, on laisse les gens livrer eux-mêmes. Et effectivement, plus de 50% des SDF ont des problèmes psychiatriques.
Il doit y avoir aussi des raisons matérielles derrière ça, parce qu'on ne peut pas stigmatiser les questions du budget.
Ah non, il y a eu toute une école, on va dire, psychiatrique et psychanalytique, où on ne voulait plus appeler un chat un chat, mais on voulait essayer de voir si les gens pouvaient pouvait s'adapter. Alors ça a commencé avec les enfants, c'est-à-dire que pendant très longtemps on avait deux types d'écoles, les écoles pour les enfants normaux et puis les écoles pour les enfants handicapés. Et puis pour les adultes c'est pareil, à partir d'un... Il faut maintenant, pour être hospitalisé, il faut vraiment être gravement malade. Il faut plus du tout... faut être dangereux, en fait. Si t'es pas dangereux...
Toujours le curseur, toujours ouais. Le problème, le curseur. Dangereux pour les autres. Puis on sait aussi, en tant qu'auteur, on est confronté à ça, le dictionnaire des synonymes, c'est super intéressant, quoi. Tu vois, on dit plus un nain, on dit quelqu'un, une personne voilà, ouais. Verticalement contrariée. Tu vois, on dit, tu n'es pas aveugle, tu es malvoyant. Et quand tu es con, tu es mal comprenant. Mais tu vois, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on a mis la distance petit à petit, on a essayé de diluer les choses et voilà, et de faire que, tu vois, on va arrêter de noter parce que ça peut faire de la peine. Hein, c'est... En même temps, je suis où ? Ben, t'es là, tu bouges pas, tu vois. Beaucoup on est en train de ruiner l'ambiance.
Oui. Et ruiner totalement le thème en plus. Là.
On va y revenir. Hein. Les personnages et les héros de vos romans ou de vos nouvelles doivent-ils nécessairement combattre le mal ? Et justement, tu en parlais tout à l'heure, est-ce que certains d'entre vous se sont frottés au concept de anti-héros ? Donc ce héros qui n'en est pas du tout un parce qu'il n'en est pas un.
Maman va dire principalement, enfin, en général, moi, les héros sont des faire-valoir pour les anti-héros. C'est à peu près l'inverse. Beaucoup de mes personnages sont confrontés à un mal qui leur est interne. Et c'est eux, finalement, qui posent problème dans la société, et pas l'inverse. Donc, cette notion de anti-héros, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on est dans une société où de plus en plus de gens posent problème. Puisqu'on parlait des SDF, c'est à la fois une société où on a l'impression qu'on est libre, mais assez liberticide aussi. C'est-à-dire avec un côté bien pensant, il faut penser politiquement correct, il faut aussi, c'est très standardisé. On est gouverné par les statistiques et les sondages. Et cet aspect-là, l'aspect de quelqu'un qui n'est pas bien pensant, qui pense mal, ça m'intéresse dans la société d'aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément des serial killers ou des gens qui vont finir par découper leurs voisins, mais ne serait-ce que cette idée de ne pas penser comme il faut et de partir d'un personnage qui ne pense pas comme il faut, je trouve beaucoup plus intéressant de confronter justement à une société où on veut à tout prix qu'on soit dans le standard, et finalement le standard ça nous amène à une certaine à marginaliser finalement beaucoup de gens et une certaine médiocrité aussi dans la créativité et tout comme ça. Pour moi, le mal peut être créateur.
En fait, c'est quoi ta question ? C'est le personnage ? Est-ce qu'ils combattent ? Est-ce qu'ils sont là pour combattre le mal ?
Doivent-ils nécessairement combattre le mal ?
Doivent-ils nécessairement combattre le mal ? Vous voulez vraiment, je vois. Je vais vous dire un truc. En fait, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à mes lecteurs. Est-ce que mes personnages, je te regarde. est-ce que mes personnages combattent le mal, Thibaut, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce qu'ils combattent le mal?
Ah, il y avait un surprise.
Est-ce que c'est ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a un mal défini absolu dans mes écrits? Eux-mêmes. Voilà, c'est juste c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais, et puis c'est ce que tu dis aussi, c'est l'humain qui combat lui-même, enfin qui se débat lui-même avec toute la complexité humaine et tout ce qu'il y a autour de lui.
Désolée Thibault.
Non, je crois pas qu'il y ait forcément déjà de mal obligatoire dans un bouquin. Combattre le mal, ouais. Je pense pas que ce soit une obligation en tout cas. Je pense que ça peut être intéressant par aux jeunesses, je te l'accorde, quoique. Mais en adulte, de proposer, pourquoi pas, une histoire où le mal est présent et que il n'est pas. On peut pas s'y opposer. C'est. Tu vois, 1984, c'est la zone depuis le début et c'est un peu compliqué de s'élever. C'est intéressant. Et pourtant, c'est un conte philosophique et c'est. Tu vois, et tu peux. Y trouver des tas de choses. Donc, Mais combattre le mal de façon obligatoire, ça reviendrait effectivement à recatégoriser. C'est-à-dire, il y a les blancs, les noirs, il y a, tu vois, il y a le gentil chevalier, le divin dragon, et je vais aller lui foutre sur la gueule parce que madame, vous méritez bien ça.
Comment ça, madame? Comment ça, madame? Pourquoi madame la dragon,
hein?
La madame
parce que, la dragon. Parce que traditionnellement, tu sais, c'est un type de type mâle hétérosexuel convaincu, plus ou moins poilu, qui manie les
macho, ouais. Ah, un bon gros macho. Hein?
Ah mais non, parce que si tu calcules, la nana, elle a tout compris, elle a son bonnet à pointe en haut de la tour, et elle attend peinard que ce crétin transpire et sue, et quand il arrive en puant comme un goré et qu'il tente de l'embrasser, elle fait... T'as pas oublié les clés de la voiture, chérie. Et il y a un côté quand même super intéressant. Et on va, moi, je plains mes gamins, si tu veux, qui ont lu ces trucs-là. Ils sont persuadés qu'ils font continuer à faire de la muscu. Ou au moins savoir monter un escalier, alors qu'il y a l'ascenseur. Enfin, un mec qui va avoir 50 balais, qui a toujours pas le permis de conduire, tu me parles meilleur. Non. Non, combattre le mal, c'est pas une obligation.
Voilà.
Et c'est bien tenté quand même.
Rapide, mes personnages essaient juste de s'en sortir. Voilà, ils essaient juste de survivre, donc à un moment ou à un autre, ouais, ils commettent vraiment le mal, mais pas par principe, quoi. Vraiment pas par. Pour gagner quelque chose, juste pour s'en sortir.
En fait, je crois juste, ça m'a rien, si c'est un petit peu à voir, je crois juste qu'on n'a pas choisi les bons auteurs pour la table ronde, rectangle.
Il y a des choses intéressantes qui sont là. On s'en sort toujours. Il y a quelque chose que vous avez abordé plusieurs fois, l'un et l'autre, les uns et les autres plutôt, à ce niveau-là. Les unes et les autres, je vais y arriver.
Les unes et l'autre. On arrête.
Je suis monté par l'ascenseur, oh la honte, et même pas pris les escaliers. Ouais, mais il y en avait trois.
Vous avez chacun, en fait, pour beaucoup, écrit aussi bien pour la jeunesse que pour un lectorat plus adulte. Est-ce qu'il y a des manières différentes d'aborder le mal? Et est-ce qu'en fonction du public, les thématiques qu'on aborde quand on parle du mal ne sont pas forcément les mêmes? Est-ce qu'il y a une manière de présenter les choses qui peut évoluer? Je vais me faire haïr avec mes questions, c'est ça?
Déjà, qu'on soit bien conscient, il n'y a pas de frontière entre littérature jeunesse et littérature vieillesse. Ben oui, quoi. Si j'insiste sur la vieillesse, c'est parce que la littérature jeunesse est encore plus imaginaire et est considérée comme de la sous-littérature. Mais pour moi, il n'y a aucune frontière. J'écris, donc pour moi, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence.
Ouais, vachement bien. J'aime beaucoup ce que tu fais. Juste bémol. Non, tu vois, bémol. Tu sais, l'invention déjà du mot littérature jeunesse me fait triper à mort. C'est-à-dire que très très longtemps, en fait, c'était pas de la littérature. On écrivait pour les titres d'enfants. Donc on n'avait pas grandi. Tu vois, il faut expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on veut rester en enfance qu'on écrit pour la jeunesse, parce qu'on a envie de bien vieillir. Tu vois le truc? Et on a inventé ce mot-là, littérature jeunesse, parce que tu comprends, ça rassure. Ça rassure les parents, ça rassure les libraires, ils n'ont pas l'impression de vendre de la soupe et tout, c'est cool. Parce que c'est littérature, pépé. Écrivain, tu vois. Et en même temps... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a de l'autocensure? Je crois pas. Le seul truc que... Après, ça va devenir de la tambouille perso, hein, pardon pour la parenthèse. Je crois que quand on écrit pour les ados, si on se met dans la tête d'un ado, on fait fausse route. Puisqu'on va le regarder à travers un prisme plus ou moins distant, plus ou moins déformé, plus ou moins flou, et on va se planter. Si en revanche, on écrit une véritable histoire, et qu'après, on la met à la portée des ados, parce que le sujet peut leur parler, parce que ça leur est destiné, ok. Je crois que... je me suis même chez Bayard, j'ai réussi ça, tu vois. Bayard. Ouais, j'ai un vieux contentieux. Même chez eux, j'ai réussi à parler de violence. J'ai réussi à parler de choses très dures. La seule différence que je faisais, c'est que quand je savais écrire pour un public assez jeune, la violence, elle pouvait être présente, mais elle n'était jamais ni gratuite. Elle est au service d'une histoire, et voilà, et jamais complaisance. Alors que quand t'es pour les adultes, c'est open bar, tu peux y aller, tu vois, c'est même un peu le deal. En thriller, pardon mesdames, je vais me faire lyncher par mes copines, là, mais ça va être cool. En thriller, la différence entre thriller et roman noir, c'est roman noir, 80% de lecteurs, c'est pour ça que ça se vend pas bien, parce que les mecs, on est cons et on est beaucoup moins que vous à lire, les filles, tu vois. Elles sont 80% de lectrices, globalement en France, sur tous les bouquins, 8 filles, 2 mecs. Les autres sont en train de monter à la tour comme des cons alors qu'elles sont à la librairie. On suivait, hein, sinon ça va être le boxon. Il y en a deux qui ont compris que pour pécho, il fallait lire. Le roman noir, c'est essentiellement des mecs. Pourquoi ? Parce qu'il faut des hormones, un peu de bière et du social. Ce qui, mesdames, globalement, vous gonfle. Dès que ça tire un peu trop sur les flingues ou que ça court un peu trop dans les rues et que ça s'explique en se mettant les coups de boule dans les caniveaux, vous tournez les pages, genre tu es gentil, raconte-moi une histoire, connard. Alors les mecs, nous, ça nous va, tu vois, même s'il n'y a pas de fin, ouais, c'est pas grave, on a bien rigolé. Vrai truc. Donc forcément, la littérature noire, c'est dur à vendre. Thriller, ça marche bien. Et bizarrement, tu as 80% de lectrices. Parce que les filles, c'est étonnant. Elles veulent bien que tu leur racontes n'importe quoi, mais à la fin, tu as intérêt à avoir une putain d'explication. Maintenant, vous allez moins rigoler, les filles qui gloussent depuis le début. Non, non. Les filles qui gloussent depuis le début, je vais plus loin. Vous établissez avec l'auteur de thriller, l'auteur E ou l'auteur, un rapport sadomaso. Ah, on rigole moins. Pourquoi sadomaso ? Parce que jusqu'à la dernière page, vous essayez de savoir qui a fait le coup, sauf que si jamais vous arrivez à le trouver avant la fin, vous nous en voulez.
Voilà.
Alors que si au dernier chapitre, on vous dit eh non, c'est comme ça, vous dites le salaud, il est trop fort. Est-ce que ça aussi, c'est pas le mal absolu ? Je fais ce que je peux pour m'en sortir de ton débat, ok ?
Du coup, on a perdu le fil de ta question. Je crois
oui,
que tu l'as
mais c'était rigolo, je me suis permis 5 minutes. Tu oui, vois. Non, jamais complaisant quand tu fais de la jeunesse et tout. Le seul truc, c'est ça. Après, le mal, oui, mais encore heureux qu'on peut l'aborder, donc la vue qui mord.
La différence dans la manière d'aborder mal entre la littérature jeunesse.
Merci, parce que moi, je suis fille, j'ai rigolé, j'ai oublié, quoi.
Tu vois, je n'ai pas pris l'ascenseur pour rien. Hein. Ouais.
La différence. la notion de mal élémentaire a-t-elle évolué dans la fiction au niveau du public entre la littérature jeunesse et la littérature adulte ? Est-ce qu'on aborde des choses de manière
différente ? J'avais réussi à écrire en disant ça va être pour la jeunesse, ça va être pour les adultes. Il se trouve que l'impro jeunesse c'était pour les adultes. Pour une question vraiment idiote, c'est que je touche à la maternité. Au début de grossesse, il y a plusieurs scènes d'accouchement. Je me suis dit qu'il fallait que l'espèce humaine se reproduise et que donc que certains enfants ne devaient pas lire certaines scènes pour éviter de dire « Ah, je ne pourrai jamais !» c'est tout. Après, j'ai beaucoup de mal à me dire ouais, « J'écris pour les enfants, j'écris pour les adultes. » C'est pas la conception, c'est une conception du marketing du métier d'écrivain qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc, et ça se vérifie puisque sur mon roman jeunesse, je vais arriver des hommes de quarantaine, plutôt scientifiques, plutôt qui viennent pour se faire dédicacer dans l'histoire de fées.
Prennent l'ascenseur.
Déjà, ils sont ingénieurs en général, donc ils prennent l'ascenseur.
Ils ont inventé l'ascenseur. Tu vois, pendant que les autres, ils font de la muscu en bas pour monter par le mur. Il y a aussi un autre truc, excuse-moi. Non, mais tu vas voir, c'est rigolo aussi. Franco-français, le truc, hein. Puisqu'on parle jeunesse, adulte, machin, catégorie, alors tu as la littérature jeunesse, puis après tu as les ados, on vient d'inventer le young adulte. Ah, ça c'est pratique.
Ah, oui.
Le young adulte, c'est quoi
c'est
on ne savait pas où le foutre. Tout le monde peut le lire, on va le mettre en young
le
adulte.
Young tu adulte. Sais, le jeune adulte.
Tu as quand même des bouquins qui sont catégorisés. De 12 ans.
Plus d'un siècle quand même.
14 ans.
L'appellation, en fait,
hein. Tu vois ce que je veux dire 10 ans, 12 ans, 14 ans. Pourquoi ? C'est parce que tu changes et c'est plus le même bouquin, ça parle plus à la même personne. Ça, c'est un travail franco-français. Je vais te donner un exemple vachement rigolo. Tu peux acheter chez Christian Bourgois, illustré par John Howe, l'intégrale du Seigneur des Anneaux. C'est un grand format, ça coûte une blinde. C'est pour les adultes, si ça coûte une blinde. Existe également en 3 tomes, toujours illustré. Hein, et on ne se pose pas la question, c'est pour adultes, parce que c'est grand, c'est cher. Après, vous avez la version small poche. Vous pouvez vérifier, ce n'est pas des bêtises, je ne sais plus chez quel éditeur c'est. C'est marqué à partir de 12 ans. Et ça existe au livre de poche jeunesse, Le Seigneur des Anneaux, toujours à partir de 8 ans. Et sur les 4 éditions que je viens de lire, c'est marqué texte intégral. Fascinant ce truc-là. Alors maintenant, pourquoi on ne va pas jeter la pierre à nos camarades, les éditeurs, c'est quoi et ni aux libraires. C'est juste qu'il y a des wagons. Quand je dis des wagons, c'est des déferlantes de bouquins qui arrivent toutes les semaines. Que évidemment, le bon libraire ou la gentille libraire qui aimerait bien faire leur boulot, c'est-à-dire lire les 600 bouquins qui arrivent tous les mois, j'exagère à peine, 180 je crois, romans par mois, nouveau en France, ils ne peuvent pas les lire. Ça, c'est, les journées n'ont que 24 heures. Donc pour leur filer un petit coup de main, on leur met un numéro derrière avec des âges pour qu'ils sachent à peu près où le ranger. C'est pratique, tu vois. Bonjour, j'ai un bouquin pour ma fille, elle a 12 ans, mais elle lit des trucs de grand, moi je vais lui en mettre un pour 13 alors que. C'est. Donc. effectivement, c'était un tout petit peu délicat de répondre à ton truc. C'est à partir de quand, puisqu'on parle de mal, là, hein, t'as vu, je reviens. Ado, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, on promène le bouquin. Mais on sait quand c'est résolument adulte, quand tu abordes certains sujets, certaines scènes, où effectivement, tu ne peux pas mal. Il est là, le curseur. Donc forcément, je pense que là, on est d'accord, tu abordes de toute façon un bouquin comme un bouquin.
J'ai écrit beaucoup sur les contes. Tu sais que les contes, c'était extrêmement terrifiant. Même parfois, en tant qu'adulte, quand tu relis certains contes...
Ouais, il n'y a pas besoin de
remonter avec les adultes et les enfants.
Ouais.
Surtout les adultes. Effectivement, moi, c'est pas la terreur qui me fait peur, c'est tous les sujets. C'est essentiellement ça. C'est ce sujet de la maternité, je voulais mal me coller dans un bouquin pour enfants, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, pour enfants, pour ados, parce que c'est pas pour les enfants, mais pour les ados, ça n'a pas grand intérêt en soi de parler de ce genre de choses au moment de la découverte de la sexualité.
Ben, c'est chiant. Oui, les choses se compliquent à un
moment. C'est que voilà, c'est ça. Il y a la sexualité, puis il y a l'épisodologie.
Pendant ce temps-là, moi,
entre
je prends l'ascenseur.
Il s'est passé des choses, voilà. Il s'est passé des choses, il vaut mieux être passé par ces choses-là avant de découvrir le reste. Donc voilà, c'est juste parce que le thème, voilà, la terreur, en revanche, on peut utiliser la même terreur chez les adultes et chez les ados. Je pense, et moi, ce que j'ai fait dans Narco Jeunesse, qui est un bouquin pour adultes, qui reprend un personnage de conte, comme l'incarnation du mal. Voilà. Ça va ?
Je pensais à la phrase de Pierre Desproges, tu sais, qui disait que l'accouchement était une épreuve hyper douloureuse et que parfois l'homme prenait la main de la femme et qu'ainsi il souffrait moins.
Et justement, en guise d'ouverture et de conclusion, donc on approche du terme des questions que j'avais prévues, si vous deviez justement citer votre méchant littéraire préféré, lequel serait-ce et pourquoi ? Je commence par toi.
J'aime pas les méchants.
Tu sais que ce que tu viens de faire, c'est mal.
Oui. C'est toi le mal incarné, en fait.
Le mal absolu en littérature.
Gargamel ou au cinéma.
Je vais être super original, moi j'adore Dark Vador.
Ouais, mais c'est pas le mal.
Mais non, parce qu'il est gentil à la fin.
C'est pas le mal absolu.
J'arrive pas à trouver de mal absolu.
Évident.
Au pire, on a fait
Hitler, mais bon,
héros, de toute façon.
Non, il a été vachement bien.
Non, c'est vrai,
bien,
c'est vrai que tu as raison.
Ah, si, si, si. T'as pas vu passer ce truc qu'on demandait aux gens sans leur dire qui c'était,
ah oui,
qui voulait comme président, voilà, un héroïnomane convaincu, le
pouvoir
du Dupont, un opiomane, tu vois, machin et tout, et puis un héros vachement bien, tu vois, bon mari et héros de guerre, c'était Adolf. Ça y est encore.
Ouais. Donc.
Non.
Un méchant absolu.
Mais
alors.
Je trouve
absolu en littérature.
Gargamel.
Dans les contes,
Gargamel, il est bête et méchant.
Oh,
c'est tous les Dacon réunis, tu vois. Il est génial.
Ouais,
mais,
Baba Yaga, j'aime bien. Voilà.
Ah oui.
Incarné Baba Yaga avec sa maison, avec des pattes de poulet. Voilà, j'aime bien les sorcières.
Ouais, mais elles sont pas toutes méchantes, c'est ça qui me...
Dans les contes, si, c'est après, c'est 20e siècle.
Jusqu'à
Rodin, elles sont super méchantes. Après, on en arrive à des sorcières qui sont plus des magiciennes que des sorcières. Puis entre-temps, on nous a dit que, en fait, c'était des sages-femmes, des herboristes. Donc, on a réhabilité. La jeunesse s'en est emparée pour en faire des personnages positifs. Mais dans les contes, elles sont absolument toutes méchantes et ça se voit effectivement sur leur visage. Et voilà, donc ma préférée, c'est Baba Yaga.
Non, moi, Gargamel, je ne sais pas finalement, parce que si des nains de jardin peints en bleu, les fous des
champignons,
je ne suis pas certain que je ne remettrai pas des coups de botte non plus. Je réfléchis, je vais trouver.
Moi, je devrais dire le vampire, puisque j'ai écrit quand même pas mal de romans et de nouvelles sur le thème du vampire. Mais finalement, comme archétype du mal absolu, il n'est pas tellement représentatif, surtout les miens, puisque je les vois de l'intérieur, et finalement, ils ont des faiblesses.
Même Dracula,
finalement, il est amoureux.
Par contre,
ce serait plutôt...
Stéphanie Meyer, plutôt.
Oui.
Au revoir. Pour avoir fait croire à toute une génération que ces mecs-là sentaient bon de la bouche.
Le vampire végétarien qui brille dans la lumière, moi ça me fait très très peu.
Le vampire idéal.
Ouais, ouais.
Non, du coup, c'est vraiment imaginer le mal absolu, ce ne serait pas tellement forcément un personnage archétypal, ce serait malheureusement la vérité, quoi. Effectivement, les dictatures. La Corée du Nord, avec ce qui s'est passé dernièrement, hier on en a encore parlé.
L'être humain.
L'être humain.
Et les gens qui mangent du pop-corn au cinéma.
Je suis le mal absolu.
Mais c'est pas l'avantage des archétypes et du fantastique, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, parce qu'elles font, nous font peur 5 minutes, quoi. Mais c'est finalement assez rigolo, assez fun. Ça n'existe pas.
Comme personnage, il y avait les inquisiteurs.
Ah, mais ceux-là ont vraiment existé, oui. C'était des bourreaux.
Et puis ça a un côté scientifique. De nos jours, il prendrait l'ascenseur. Parce que regarde, tu prends une sorcière, tu la balances dans la piscine et tu vérifies qu'elle flotte. Non mais t'es pas donné à tout le monde à l'époque. Il fallait vérifier. Non, ils sont pas vraiment méchants. Ils ont été dessinés comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme personnage vraiment? Toulouse, ouais, mais c'est même pas. Il s'en fout en plus, tu sais, de la planète, il est là, lui, le mec, il regarde ça.
On n'est même pas sûr qu'il veuille vraiment revenir, hein. C'est le mec qui l'invoque à tout prix.
Non, un vrai méchant, je sais pas, Mad Dalton.
Non, elle est gentille.
Ah bah oui,
ah, bah, tiens, Dalton. Elle
est gentille, elle fait des tartes.
Ouais, et puis elle est même, en fait. Enfin, non.
Elle met des tartes.
Bon, on inverse un peu les rôles maintenant, on va relever les copines. Est-ce que vous avez des questions?
Voilà, on peut.
Non, parce que c'est pas le tout, mais elle n'est pas gagnée, la Coupe d'Europe.
On peut aussi passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions à poser aux auteurs sur leur manière d'aborder le mal ou de voir le mal?
Les rapports un peu conflictuels.
Si vous avez des questions au mal aussi.
Apparemment, si j'ai bien compris le débat, il y a le mal, il y a deux manières de le voir. Soit c'est des asociaux, genre les tueurs fous, soit c'est les gens qui portent un regard. Pas bien compatissant sur des problèmes qui sont des gens qui sont asociaux, des enfants dans le métro. Donc, mais on a un peu évacué le mal tel que le présentent les religions, par exemple. Donc, c'est rassurant. Pour moi, ça me rassure quelque part. Mais j'ai pourtant l'impression que cette idée du mal incarné en tant que force comme ça est quelque chose qui est présent dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que les romanciers font de ça?
Dans le fantastique, enfin, comment on travaille sur des archétypes. Moi, je me pose énormément de questions sur la religion. Ça apparaît dans mes écrits, mais je me place pas en tant que religieuse. Je vois plutôt la religion comme une espèce de garde-fou qui des fois garde tellement le fou qu'il le rend fou, quoi. Enfin, donc.
Je sais pas. Moi, je suis dans une. Je cache mon jeu, hein, mais je suis extrêmement dans une démarche spirituelle. Ce qui ne veut pas dire que j'essaie de faire rire. Quoique.
Non, là, on va tout de suite.
Non, mais je pense qu'effectivement, la religion, après, tu plaques ce que tu veux dessus. Pour moi, c'est juste un début d'essai philosophique, à un moment donné, où il a fallu placer le curseur dans une société et dire aux gens si oui ou non, il fallait librement faire ça ou pas.
Oui, en tant que première loi, oui.
Tu vois,
oui,
et donc on en revient à ce qu'on disait au tout début, donc tu veux, ça fait une heure qu'on tourne en boucle quand même. Le mal, tu peux essayer de lui donner des noms ou un visage, mais je crois que de toute façon il est là. Le mal, il est un peu en chacun d'entre nous, et puis que si on bosse tous un tout petit peu ensemble et qu'on arrive à piger le truc, on va pas l'éradiquer, mais au moins on va le mettre sous la cocotte minute et l'enfermer, tu vois. Tandis que si effectivement, alors après, il y a d'autres théories, libertaires et compagnie, on peut en parler pendant des plombs, avec qui allait se bouffer le nez, c'est adorable. Le côté libertaire et anti-religieux ne peut fonctionner qu'à partir du moment, et là ça devient limite ce que je vais te dire, qu'à partir du moment où chacun d'entre nous, partout sur la planète, aura atteint un certain seuil de maturité. Tu vois, donc d'éducation, donc de plein d'autres choses. Et ça, c'est compliqué.
Est-ce qu'on est proche d'un état, de cet état-là? Je n'ai pas du tout l'impression.
Ah ben non, j'ai même l'impression qu'on régresse. Tu vois, on en parlait dans le métro, dans les choses comme ça. On est en train de normaliser la normale. On est en train d'accepter l'inacceptable. Pépère, il est mort il n'y a pas longtemps, il disait indignez-vous. On s'en fout, c'est pas ça, c'est, il faut réagir. Ok, s'indigner, c'était formidable comme truc, mais c'était juste une goutte d'eau. Tout le monde est venu pleurer après en disant ah, c'est un grand bonhomme.
C'est vrai que si on voit la quête spirituelle comme un moyen de lutter contre le fanatisme religieux, comme un moyen pour éduquer, effectivement, on en a besoin. Moi, je sais que sur la suite de l'Emachtou, je m'intéressais beaucoup au fanatisme religieux, aux mécanismes qui font que des gens deviennent des tueurs au nom de quelque chose qui est censé être la loi suprême et qui empêche normalement les humains, qui est censé les civiliser. Ce mécanisme du fanatisme m'intéresse beaucoup. Et je pense que par la quête spirituelle, on peut lutter contre le fanatisme.
Oui.
Parce que c'est par la spiritualité, en refusant
de travailler pour Bayard.
Est-ce qu'on est encore dans la religion, dans le sens classique du terme, chez les fanatiques?
On est dans une lecture
orientée et non intelligente d'un texte. Voilà. Ce sont des textes qui sont tous, je parle des trois principaux livres, très beaux, qui amènent plutôt vers la tolérance, et qu'une poignée de crétins un peu partout, et pour les trois livres, sont capables de lire de façon tellement tendancieuse qu'ils l'appliquent à la lettre. Alors que c'est même pas ça qu'on leur dit. Ouais. Aimez-vous les uns les autres, ils en sont à plaisir d'offrir, joie de recevoir la Kalachnikov. Il y a un truc qu'à un moment donné, le plan com de ces trois livres a merdé quelque part. D'accord. Et en même temps, si pour leur expliquer, il faut aussi aller leur foutre la bombe, il y a toujours
aussi,
dans le curseur. Ouais. Hein, d'autres questions?
D'autres questions ou...
Eh bien, écoutez...
Une qui va un petit peu aujourd'hui. Mal, vous parliez peur et terreur. Mais le mal doit-il forcément faire peur?
Waouh!
Ouais. Disons que si on prend la religion, l'aspect de la religion, c'est de faire que le mal nous fasse peur.
Oui, enfin, simplement, les 7 péchés capitaux. Ah, la
gourmandise,
c'est un péché, c'est mal.
Ah bah,
quand on a vu Seven, ouais. Faut pas y aller.
Quand les textes, les principaux textes bibliques ou judaïques ou même musulmans ont été écrits, la gourmandise c'était mal, puisqu'on mangeait pas beaucoup, et si on était gourmand, on mangeait pour les autres aussi. Quoi. Donc c'est des lois qui ont été écrites dans le but de civiliser il y a plus de 2000 ans. Maintenant,
ça correspond.
Il y en a qui marchent encore, hein, ne tue pas ton prochain, ça peut effectivement bien marcher, mais le péché gourmandise, c'est vrai qu'il est un peu sa bonne idée.
Mais après, enfin, voilà, non, c'est éloignant, mais surtout sur le mal intérieur, ça ne fait pas peur, c'est au contraire parce que ça tente également.
Je dirais là, un peu basiquement, si on commence à ne plus vraiment avoir peur du mal, c'est soit qu'on s'en est dégagé, effectivement, qu'on a mis la distance, soit c'est très très inquiétant. Donc, on a choisi en fait.
On a choisi obscur.
Voilà. Mais effectivement, normalement, si on a peur du mal intérieur et ce qu'on peut avoir comme marque bruyante, c'est qu'en général, on a mis une distance, on l'a accepté, on a dépassé cette peur.
Et est-ce que ça vous est arrivé du coup d'être dans des salons internationaux ou je sais pas, et de rencontrer des auteurs qui sont d'autres cultures et de voir que le mal, la notion de mal finalement était très différente, par exemple avec des, je sais pas, des, l'Asie ou des choses qui sont peut-être carrément à l'opposé, par exemple au niveau de la religion, des aspects qui sont extrêmement différents et qui font retourner finalement le bien et le mal comme on entend.
Pas retourner complètement, mais le... porter un regard totalement différent, oui. Je suis né au Cambodge, j'ai du sang vietnamien, parce que mon arrière-grand-mère a fauté avec un blanc, enfin, c'était compliqué. Le point de vue asiatique, par exemple, sur le mal, il est totalement différent. Je me suis retrouvé dans une salle de cinoche avec des japonaises, je ne connaissais pas, pour voir Battle Royale à sa sortie. Les filles étaient mortes de rire. Parce que c'est... Pour eux, c'est une vision fantasmée, c'est drôle. Voilà, c'est un film drôle. Kitano, qui nous fout les jetons sur 9 films sur 10 en Occident, il faut pas oublier que son autre nom au Japon, c'est Beat Takeshi, et que c'est un clown, c'est-à-dire qu'il fait rire les gens avec ses films. C'est, voilà. Donc, effectivement, c'est un regard, mais peut-être que c'est un regard distancié. Parce qu'on n'a pas non plus... Il y a la société judéo-chrétienne d'un côté, d'autres sociétés. Il y a un rapport à la mort, il y a un rapport à la souffrance, il y a un rapport au mal au sens physique du terme, qui est différent. Et encore une fois, le seul truc qui nous rapproche tous dans les différentes sociétés, c'est peut-être la volonté d'essayer de vivre les uns à côté des autres, quoi, en bonne entente. Après, la règle, depuis que les Anglais ont essayé de conduire à gauche, c'est la merde de la planète, donc compliqué. Je me fais penser à un flic italien que j'avais trouvé sur le bord de la route, qui était extraordinaire, parce que je lui... Le rapport au mal, tu sais, je vois des panneaux et je ne connaissais pas le truc. Et effectivement, ils avaient aussi un 130. Donc je lui dis, donc on n'a pas le droit de dépasser le 130. La réponse du mec est géniale. Il m'a dit, bah, c'est juste una suggestion.
Ça, c'est l'Italie.
Carabinier, le mec.
Tout fout le camp.
D'autres questions ou...
Bah, je crois qu'ils ont l'air détendus.
Oui, oui. Donc, bah, je vous remercie d'être venu pour cette table ronde et bonne continuation.
Merci. 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 Merci.